Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
Pour lancer la saison, on reçoit un des plus grands agents mannequins de la place parisienne, Saïf Mazi. Connu pour son travail à la tête de la division européenne de l'agence Next et son don inné pour détecter les talents, il est désormais à la tête de son agence presque éponyme, Saïf Management. Dans cet épisode, il revient sur son parcours. Comment il a été parachuté dans le milieu de la mode et comment, à force de travail et au gré des rencontres, il a su nouer des relations pérennes avec les plus grands acteurs de l'industrie.
Bah bonjour Saïf, merci d'être avec nous.
Bonjour. Salut.
On est très très content de t'avoir aujourd'hui.
Et merci de me recevoir surtout.
Merci de prendre le temps. Écoute, le concept du podcast c'est un peu de raconter sa vie. La tienne, elle a le petit truc qui va intéresser pas mal de monde. Donc j'aimerais que tu nous racontes comment t'es arrivé dans ce milieu depuis le départ, d'où tu viens déjà, où est-ce que t'es né, ton parcours et... Tu peux partir de l'école,
ouais,
d'où
tout.
Tu veux. Ah ouais, on part sur tout là.
Ouais, c'est une
là,
bio.
C'est une bio derrière, il ouais. Y a un mec qui note.
En fait,
note,
il y a plusieurs saisons, tu vois.
Vas-y, commence par la saison 1.
Je suis né à Paris, dans le 10e arrondissement, donc juste à côté d'ici. J'habitais sur le canal Saint-Martin. Oh là là, la suite, c'est compliqué.
Où est-ce que tu es allé à l'école? C'était comment l'école?
C'était super l'école. C'était super. Non, mais c'est vrai en plus, parce que... L'école, donc je suis d'origine tunisienne, mes deux parents sont tunisiens, donc la maison c'était vraiment la Tunisie, bercée par Oum Kalthoum, Farid El Atrech, on parlait pratiquement qu'en arabe à la maison, et l'école c'était la France, donc né ici, donc français, et la socialisation en France, donc c'était assez intéressant et excitant à la fois parce que je baignais entre deux univers, donc là je parlais pas arabe, je parlais français, j'apprends l'histoire de la France, je me socialise, je grandis, l'éducation nationale, extraordinaire.
On va enfant de la République quoi.
Ouais, vraiment, vraiment. Donc juste à côté, avenue Parmentier, l'école en face de l'hôpital Saint-Louis, voilà.
Je vois très bien.
Ouais, la piscine où j'allais au club
grand
des
mouettes.
Non, grand nageur, non, mais ouais, j'aime bien nager.
Ok, et donc tu fais un parcours scolaire, tu vas jusqu'à où, c'est quoi là?
Je vais jusqu'au bac, bac B, à l'ancienne.
À l'ancienne.
Non, mais t'as l'impression d'être, tu vois, j'ai 50-3, c'est la lecture des trucs, j'aime bien. Bac et après je fais un BTS action commerciale en alternance, premières années de l'alternance, donc personne
c'est comment ça marche vraiment,
ouais personne ne connaît, personne n'a envie, et je commence, je travaille dans une sandwicherie à Rony 2 qui s'appelle Classe Croûte.
Oh, wow.
Expérience extraordinaire où j'assiste le manager du truc avec un petit gilet rouge et tout, extraordinaire, un sandwich au foie gras, sandwich jambon et tout, c'était top. Donc je commence à faire ça après, avant j'avais déjà travaillé pas mal dans des boutiques de fringues. En fait à 16 ans, j'avais déjà un an d'expérience professionnelle, j'avais falsifié... carte d'identité, photocopie, j'avais 15 ans, donc je disais que j'en avais 16 et tout, et j'avais commencé au Burger King, je vendais des fringues au hall, et j'avais commencé dans le quartier, donc, à faire du babysitting vers 13 ans, et je me suis retrouvé un peu à faire du babysitting dans tout le quartier. Et à un moment donné, il y avait trop de demandes.
Et donc t'as monté une boîte avec
non, j'ai pas
sous-traité le babysitting.
Ouais, j'ai sous-traité le babysitting.
Est-ce que tu prenais une com? Plus 20 ou pas plus 20?
Alors, c'est pas plus 20 à l'époque, mais ouais, je prenais une com. Non, non, mais sérieusement.
Bah, c'est bien.
Apporteur d'affaires.
Bah, je faisais bosser. C'était ma team, en fait. Et...
c'est énorme.
Non, mais c'est véridique. Et je faisais bosser. J'avais trois potes, deux nanas et un mec qui était, voilà, qui avait envie de gagner de la thune aussi. Et qui était hyper sérieux parce que tu te retrouvais à garder des mômes. Enfin, ouais, tu vois, c'est une espèce de responsabilité. Et moi, j'adorais ça, de me retrouver avec les gamins, leur faire faire les devoirs, gruger sur l'heure du sommeil, regarder un peu la télé quand ils n'avaient pas le droit. Enfin, tu vois. Donc ouais, j'aimais bien bosser et ça me permettait, voilà, de mettre un peu d'argent de côté, de grandir. Après, moi, je viens d'un milieu social assez pauvre. Je crois que c'est vraiment le mot. Il y a un truc un peu pas misérabiliste, mais tu vois, quand tu dis oui, les pauvres et tout, mais on n'avait pas d'argent, enfin très peu d'argent. Mon père était éboueur et ma mère faisait des ménages la journée, le soir, elle faisait du repassage jusqu'à 3 du mat. Des mecs de l'immeuble et tout, et c'était super. Et donc, du coup, ouais, j'ai commencé à travailler très vite. Et on revient à Ronnie 2, l'alternance, le sandwich. Et j'ai passé, je sais pas, je crois que ça a duré un an. Je me suis embrouillé avec le boss du truc à un moment donné. C'était hardcore. Mais Ronnie 2, c'était génial parce que tous les vendeurs de tous les magasins, il y avait des sous-sols à Ronnie 2 pour le personnel. Et on se retrouvait et on faisait du trade. Donc moi tu venais manger, je te faisais pas payer le sandwich, oui. Et tout, j'avais un 501 au bout d'un moment, enfin il y avait vraiment des trucs mais de ouf.
Ah, c'est énorme.
Mais ouais, c'était génial. J'ai des souvenirs de ça qui sont assez fous. Et le truc le plus dingue pour moi de cette expérience, c'est que en fait on jetait à la fin de la journée les sandwichs, les pertes, des trucs machin. Et pour aller à Ronnie 2, j'allais à Gare de l'Est. Je prenais le train à Gare de l'Est et donc tous les soirs, je rentrais avec tous les sandwichs qu'on n'avait pas vendus et je les filais. Il y avait une espèce de salle avec des clochards à Gare de l'Est et j'étais devenu un peu le, tu vois.
Le Père Noël.
Bah, pas le Père, ouais, mais il y avait un truc comme ça et un jour, je suis arrivé et en plus, je ramenais des sandwichs au foie gras, des trucs comme ça, tu vois, c'était un peu...
Ouais, c'était vraiment
Ouais. Et puis c'était, voilà, mes topos et tout. Et un jour, je suis arrivé avec trois fois plus de bouffe. J'avais, un peu gaulé des trucs et tout, tu vois. Et j'arrive et j'annonce que j'arrête classe croûte. Et je te jure, c'était
un drame.
Mais même pour moi, c'était un drame. C'était horrible. J'étais hyper content de partir de ce truc-là. J'avais pas d'autre job, mais c'était le mec était ouf. Et au bout d'un moment, je lui ai un peu jeté le gilet rouge dans la gueule et tout, c'était drôle.
Un gros sandwich au foie gras dans la bouche.
Non, mais je me suis vénère un peu. J'étais un peu énervé à l'époque.
Et ça a changé, ça.
Ouais, je suis beaucoup plus calme, posé, etc. Et je me suis retrouvé sans boîte, en fait, pour payer
l'alternance
avec la taxe professionnelle, formation, je sais pas quoi. Et mes profs, au bout d'un moment, c'était là, j'allais à l'école et tout. Tout le monde essayait de m'aider et tout. Je trouvais rien du tout. Et je trouve un plan pour aller une espèce de structure de pub où tu vends une régie publicitaire, voilà.
Okay.
Où tu vends des espaces publicitaires, machin, au téléphone et tout. Et je vais à Montparnasse, j'ai un rendez-vous et tout, truc de ouf. Et j'arrive dans une cour, jardin, sublime. Et il y a un bureau, des baies vitrées, je vois des posters de meufs et tout. Je suis là, waouh, agence de pub et tout. De ouf. Et en fait, je demande à voir le boss. Il y a un mec qui sort complètement dégarni avec, tu sais, les petites.
Petit catogan.
Ouais, petit catogan.
Ah, tout, ouais, complètement le cliché du mec de la mode de l'époque.
Et on s'installe dehors, il fait beau. Le mec me fait, tu veux une bière? Je suis là, ouais, putain, comment c'est trop cool. Et il commence à me parler, ouais. Shooting à New York, Steven Meisel, Jerry Hall sur la péniche, là, Mick Jagger, il venait de se connaître. Je parle de.
Quoi?
De quoi il me parle? Mais en plus, pour de vrai, de quoi il me parle? Tu vois, genre, je pense que Mick Jagger, j'avais peut-être entendu le nom, Jerry Hall, Steven Meisel, New York, enfin, tu vois, j'ai 18 ans. C'est pas mon univers, tu vois. Et oui, j'étais le premier à emmener des filles à Milan et tout. Je dis, de quoi il parle? Pourquoi il emmène des meufs à Milan et tout? Et là, je commence un peu à, tu vois. Et le mec me regarde, il me fait, bon, alors, tu shootes quoi? J'étais là, pardon? Tu fais tes photographes? Tu fais des tests? Ou j'étais là, quoi? Des tests? Shoot?
De quoi tu me parles?
Et le mec, il me dit, mais qui t'as rendez-vous avec moi? J'étais là, ouais, j'ai rendez-vous avec monsieur machin. Il me dit, ah ouais, c'est le tocard au premier étage et tout, il est odieux. Et j'avais commencé à lui expliquer un peu que chercher du taf et tout, mais il était en monologue, donc... Et là, je me vénère, je fais « Putain, je pue la bière et tout, machin !» Et je monte à l'étage et je vois le mec effectivement odieux. Je reprends mon CV que je arrache des mains que tu sais que tu fais imprimer chez machin et que tu payes une blinde et tout. Donc la feuille de papier est tellement précieuse. Et je redescends, il me fait « Ouais, t'as vu, c'est un tocard ?» Je fais « Ouais, ouais, ouais. » Il fait « Tu veux une autre bière ?» Je fais « Ouais. » Et je reste avec lui, il commence à me poser plein de questions, je lui explique le truc de l'alternance et tout, il me dit « Cool, je vais voir, je vais en parler à des potes, promis, je t'aime bien. » Bah quoi, je fais « Ok, super, adorable. » Le lendemain matin, je suis dans ma chambre de bonne, à 8h du mat, le téléphone donc fixe, bien sûr, sonne.
Mais à ce moment-là, tu savais qu'il t'avait en face de toi ou pas ?
Pas du tout.
Ok.
J'avais compris, il n'avait pas arrêté de parler de mannequin, donc j'avais compris le truc de mannequin, mais... Pour moi, une agence de mannequins, ça voulait rien dire. Donc, tu vois, une boîte, tu ouvres, il y a des mannequins. Enfin, un placard avec des filles, je sais pas. Non, mais en plus, j'y ai pas porté plus d'attention que ça, étrangement. J'avais plus bloqué sur le fait que je venais de rater un entretien pour trouver un job, pour pouvoir continuer à payer mes études.
Que... Ah, parce que toi, t'es dans une situation d'urgence.
Bah, l'école, au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que il y a pas de boîte et voilà quoi. Et le mec me rappelle et me parle en anglais à 8h du matin. Là,
donc tu lui réponds en arabe.
Ouais. Et là, c'est génial, une histoire d'amour. Non, et je me débrouillais pas mal en anglais. C'est, je pense, les seules matières où je me débrouillais, c'est les langues, l'oral, étrangement. Et je commence à parler en anglais avec lui, ça dure une demi-heure, quoi. Tu vois, je suis là, yes, I come from, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et puis au bout d'un moment, il me dit « Écoute, on se retrouve à 15h au Booking. » Et là, je me dis « Booking, c'est un bar. Le mec, il est chaud, il m'invite à boire un verre. » Non, mais t'ouvres rien du tout. Tu vois, je suis là « Mais c'est quoi le Booking ?» C'est là où t'étais hier. Tu viens au bureau. Je suis là « Ok. » J'arrive au bureau et tout. Et là, on rentre. Il y a des espèces de grandes tables rondes avec un tourniquet au milieu, avec des dos. Je ne comprends pas. Et je vois des meufs qui sont là. Ouais, en train de parler en anglais et tout. Et l'agence s'appelait You et elle prenait le téléphone et c'était You, bonjour. Et j'étais là, wow, je suis où, tu vois. Putain. Et il me présente aux meufs qui lèvent vaguement la tête et qui ne me regardent pas. Non, j'existe classique. Pas. Puis en plus, j'étais un plouc. Mais pour de vrai, j'étais un plouc. Tu vois, je ne sais pas ce que c'est la mode, les vêtements, les trucs, je m'en bats les couilles, tu vois. Et il me regarde et il fait « Voilà, Saïf est le nouvel assistant. Il va travailler là 15 jours, puis il ne sera pas là, il va aller à l'école pendant une semaine et il revient 15 jours. » Je dis « Mais de quoi il parle ?» Et je le regarde.
Ils avaient décidé pour toi, en fait.
Enfin, lui avait décidé, ouais, bon. Mais il ne me l'avait même pas dit. Donc, et là, il fait « Assieds-toi là. » Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et j'étais
il t'a jeté dans la fosse au lion, quoi.
Tu n'imagines pas la joie. J'étais dans
le soulagement.
Ouais. Puis je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Et j'étais là, mais pourquoi ? Mais quoi ? Je vais faire quoi ? Là, je vois des meufs, il y a des composites. Et le téléphone sonne et il y a une des meufs qui se retourne et qui me regarde, me fait bah réponds. J'étais là, tu vois. Mais tu vois pas que ça sonne. Et en fait, tout le monde avait donc un fixe devant soi et il y avait des lignes directes et la ligne générale et tout. Je savais pas à quel bouton appuyer. Si tu décroches, en fait, il n'y a personne, il faut appuyer sur des boutons. Je te jure, mais j'étais en panique et je les regardais et tout. Et là, je les vois toutes. Ah ouais, you bonjour. J'étais là, you bonjour. J'étais là, qu'est-ce que
deux
tu fais ?
Deux salles d'ambiance.
Ouais, mais j'étais là, qu'est-ce que tu fais ? J'étais le seul cum dans le bureau et tout. J'ai un peu la voix grave. J'étais là, bon, on y va, on va jouer la voix, tu vois. Et là, j'ai une nana. Ouais, c'est qui ? J'étais là, Saïf. Alors, ouais, ça va ? J'étais là, ouais, tu me tutoies, c'est ma cousine tout de suite. J'étais là, c'est étrange. Tu vois, moi, j'ai essayé toute ma vie d'être super bien élevé, vous voyez tout le monde. Enfin, c'est pas, j'ai essayé, mais j'ai la chance d'avoir été très bien élevé par ma maman. Et voilà, et donc, je me retrouve dans un truc où la meuf, elle me fait, ouais, je te passe un casting. J'étais là, ok. Et je fais, ne quittez pas. C'est un peu en panique et tout. Je regarde la meuf à côté de moi, je fais, elle veut me donner un casting. Elle me fait, bah prends-le. J'étais là, prendre un casting. Oh, donc je reprends le téléphone et je dis à la meuf, ok, bah donne-le-moi. Et j'étais là, bah faire quoi, bah m'envoyer un paquet, tu vois, mais c'était ouf, sérieux. Et là elle commence à parler, elle fait ouais, une fille blonde, évanescente, mais elle est sûre d'elle, je sais pas quoi. Et j'écrivais sur un papier, j'étais là, évanescente. Et là je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais.
Mais vraiment.
Moi non, je...
non, non.
Till this day.
Mais si, j'ai appris. Toi aussi. Et toi aussi, tu dois appeler en demandant aux gens une fille un peu évanescente.
Ouais, non, non, bullshit, moi, quand j'appelle.
C'est pas bullshit, c'est une vraie attitude, ouais. L'évanescence. Non, on peut en parler longtemps. Non, et du coup, je note, elle commence à me donner des horaires, une adresse. Non, elle me donne le nom d'une boîte, je suis là, ok, mais t'as pas l'adresse ? Je suis là, si. Et je raccroche le téléphone, je suis un peu en panique et tout. Et la nana qui était à côté de moi était très sympa. Et je la regarde... Et je regarde tout le monde, j'ai un casting et là on me répond « Bah mets-le sur les charts !» Ok, les charts, que j'étais là, mais... tu vois, on me parlait un langage que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Tu vois, donc c'était assez dément et la nana avec moi, elle me fait « Alors tu vois, ça c'est les filles in town, ça c'est les filles qui sont pas machin, tu vois, j'étais là, ok, ok. » Et elle a besoin de quoi, une blonde évanescente, ça veut dire quoi ? La meuf, elle me regarde. Donc c'est très drôle, mais t'es très mignonne, tu vois. Puis voilà, ça commence comme ça. Et il y a une nana qui était là. En fait, à l'époque, il y avait les filles de Catwalk et les filles d'Edito. Et c'était pas les mêmes. Et les filles qui faisaient les shows, en fait, c'était des filles qui travaillaient dans les maisons avec les designers et qui faisaient les cabines, en fait, et sur lesquelles on construisait les vêtements. Donc je travaillais avec. Il y avait des stars, des podiums, en fait. Que tu voyais pas forcément dans les magazines. Mmh. Et tu vois, on est en 92. Et il y a déjà Naomi, Linda, machin et tout, qui sont les stars des shows. Et quand tu regardes aujourd'hui encore les défilés de cette époque-là, donc tu vois les restas et tu vois d'autres nanas que tu vois sur tous les défilés et qui sont en fait les muses des designers. Et l'agence You, c'était que ça. Et c'était assez dingue, donc, parce que je travaillais avec des filles qui étaient bookées le matin à 15h avec Gianfranco Ferré toute la matinée pour faire les essayages chez Dior, l'après-midi avec Christian Lacroix, le lendemain, elle passait la journée avec Hubert de Givenchy. Cette fille-là, par exemple, elle faisait les trois. Mmh. Et il fallait jongler les plannings, les trucs et tout. Et donc, il y avait une nana qui gérait et Saint-Laurent, et Dior, et plusieurs grosses marques comme ça de luxe, et qui est tombée malade et qui a eu des grosses complications et tout. Et on me regarde, on me fait « mets-toi à sa place ». Et donc les lignes, c'était des lignes directes. Et là, je me retrouve avec Nicole Dorier, studio de Monsieur Saint-Laurent, au téléphone, qui me demande les filles, les gens, Hubert de Givenchy, machin et tout. Moi, tu vois, je connais pas en plus, donc je ne comprends pas la dimension du truc. Et en même temps, ça se fait hyper naturellement. D'abord, j'ai le même âge que les filles. Donc il y a une espèce de complicité qui se lie et tout très rapidement. Et ensuite, les gens de la mode, là je me retrouve dans un univers où personne n'en a à foutre que je m'appelle Saïf ou Stéphane. C'est clair, vraiment. Et au contraire...
Parce qu'à cette époque-là, quand tu étais au téléphone, dans d'autres boîtes, on pouvait te demander de changer ton prénom.
Mais je ne trouvais pas de job, je ne trouvais pas d'appart avec la mère de mon fils, on galérait. Elle appelait pour un appart, on avait le rendez-vous, j'appelais avant, je ne l'avais pas. Enfin, ouais. Tu vois, tout était... Je me souviens, on avait fait une interview quand on avait 16 ans, parce qu'on était un couple mixte. Et c'était un truc hyper... on en parle, c'est un sujet, c'était un vrai sujet. Parce que c'était rare, parce que c'était une vraie complexité. Moi, à l'époque, c'est une parenthèse, mais c'est assez intéressant. Quand j'ai rencontré la mère de mon fils, j'étais très jeune. Et à l'époque, il y avait le livre de Betty Mahmoudi qui était sorti, Jamais sans ma fille ou je ne sais quoi, qui s'était fait kidnapper sa gamine par un père rebeu et qu'il est parti avec et tout. Et les parents de mon ex, c'était t'es avec un arabe. Il faut faire très attention parce qu'un jour, il y avait ce livre, il y avait cette espèce de truc. Et parallèlement, mes parents, que je sois avec une Française aussi, c'était un peu genre, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Donc c'était assez drôle, mais tout ça donc, dans ce mélange de la vie professionnelle et tout. Et voilà, et je me retrouve donc à bosser, à plus aller en cours, à récupérer mes cours par fax. Le fax. Ouais, et avancer la. Comment ça s'appelle avec le carbone
La télécopie.
Non, c'est. Oui, c'est la télécopie, mais il y a un autre nom. Ah merde, ça va me revenir. Et tu faisais les trucs et tout en carbone, tu mettais trois feuilles dans. Enfin, dingue. Et oui, ça paraît étrange, wow. Tu ne peux pas savoir ce que c'est.
Mais tu sais que dans les mails, c'est pour ça qu'il y a écrit CC, c'est carbone copie.
Oui, bah. Oui.
C'est possible.
Ah non, c'est pas possible, ah, okay, c'est sûr, 100%.
Ça, ouais. Ah, je savais
le
pas.
Le CC dans les mails, ça vient de ça, en fait, carbone copy.
Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et je passe mon BTS et t'as un oral sur les actions commerciales que tu fais. Mmh. Et je ramène des fax avec mon nom, avec en tête, Givenchy, Saint-Laurent, Dior, Chanel. Et je monte, voilà, donc là, j'ai fait le booking pour ça. Donc la fille, en fait, tu dois la présenter, machin. Mmh. Et tu vois, fallait... montrer ce que tu as appris à faire et comme deal en gros, tu vois, si tu travailles dans l'immobilier, moi mes potes ils étaient chez des assureurs dans l'immobilier, des trucs comme ça ou de la vente, donc fallait justifier un peu tes actions de vente. Et là les deux meufs, je me souviens, qui me regardent pendant mon oral, elles me font vous n'allez pas nous faire croire que vous avez travaillé avec Saint-Laurent, moi j'y crois pas à ces trucs. Et les meufs, elles se parlaient et tout, c'était assez dingue. Et
ouais.
Et j'ai eu mon BTS. Et en fait, à l'époque, j'étais payé, donc on parle en francs, un quart de SMIC en fait pour faire le truc. Donc, Mais c'était Dallas. J'étais l'homme le plus heureux du monde. C'était fou. Et je me rends compte que d'abord, je me suis fait des potes, des clients, des trucs. Et puis je m'amuse, je bosse comme un chien. Donc je vais nettoyer les appartements d'agence, parallèlement à parler, à booker les trucs, faire la queue à la préfecture pour les papiers de travail, aller chercher les filles à l'aéroport, des Polonaises qui ne parlent pas français, tu les ramènes, donc tu vois, en bus et tout. C'était génial.
Tu t'es senti très vite à l'aise en vrai, t'as vite pris les rênes du poste.
Ouais, les rênes, en fait, j'étais pas conscient de ça, au contraire. On me donnait des missions, on m'en donnait 15 dans l'heure, j'étais en transe. Je revenais, tu sais, comme un petit chien fou. C'est fait, tu vois.
En fait, t'es juste un gros bosseur. C'est pas forcément l'industrie qui t'excitait plus que ça, c'est l'envie de faire les choses.
Ouais. Et puis j'avais du taf, je me retrouvais dans un univers que je connaissais absolument pas. Mmh. Et donc tous les jours, c'était une espèce de découverte, il y avait l'excitation. Et puis ouais, je gagnais de l'argent, je pouvais faire mes trucs, évidemment. Il y avait plus ce côté-là. D'être excité par le fait d'avoir un travail.
C'est ça.
Et de rentrer quelque part et d'avoir une opportunité que ce mec m'ait regardé et m'a donné une chance de faire. Mm. Donc moi, en plus, et c'est mon éducation, il y a un truc de respect absolu. Ce mec m'a fait confiance, machin.
Une chance.
Moi, c'était pour moi Dieu vivant, le respect absolu. Enfin, tu vois, il y a toutes ces valeurs-là qui étaient hyper importantes. Et il me propose de m'engager à plein temps et il me propose un salaire de merde, genre le SMIC. Et ça a l'air de merde, on s'entend. Mais en tous les cas, je commençais à comprendre l'industrie, le truc et tout.
Tu voyais combien les filles étaient payées. Enfin, tu vois, tu t'imaginais combien les filles
payées, c'était un truc dès le départ. Et je sais que chez beaucoup d'agents, même voilà, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, il y a plein de gens qui sont aigris parce qu'effectivement, les mannequins gagnent des sommes qui sont à des années-lumière de... La normalité en France, des salaires, etc. C'est un univers à part. Et il y a beaucoup de gens que ça frustre et que ça rend presque aigri au prix auquel elles sont payées. Oui, mais toi, tu ne seras pas payé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mais du coup, moi, c'était oui. Comme tu viens de dire, c'est le chiffre d'affaires. Je voyais l'argent qui rentrait. Je commençais à comprendre les marges, les commissions, les trucs. Et je disais, waouh, en fait, j'ai ramené plein de thunes. Tu vois, et je me suis dit, bah, ce truc-là de ramener de la thune, je peux aller le vendre ailleurs, quoi. Et j'ai commencé à appeler d'autres agences. Et j'ai appelé l'agence Marilyn, je pense, 290 fois. Je suis devenu pote avec son assistante, Nathalie. Tous les jours, je l'appelais, ça va et tout. Elle est rentrée, elle est toujours à New York et machin et tout. Je commençais à connaître la vie de la meuf, tu vois. Et puis, j'ai réussi à avoir un entretien et j'avais... En fait, cette entre guillemets qualité d'avoir travaillé avec les maisons et donc de pouvoir m'occuper des défilés. Et Bref, long story short, je suis engagé chez Marilyn, j'arrive hyper tôt, il n'y a personne au booking, les gens débarquent n'importe quand, n'importe quelle heure, une espèce d'ambiance de folie totale. Là aussi, je suis le seul mec aussi. Et il y a une meuf qui arrive, qui était la directrice du booking, et qui arrive avec des composites, un paquet de composites, qui me regarde, qui ne m'a pas dit bonjour, et qui pose des composites sur ma table et qui fait « Alors, on est toujours les derniers à envoyer le package des défilés. Ça, c'est tout le package, tu envoies à tous les clients, tu notes les options et tu viens me parler quand t'as terminé. » J'étais là, ouais. Et là, je prends le package et je vois Carla Bruni, Kate Moss, Elena Christensen, Stella Tennant, Michel X, Yasmin Gori. Et je suis là genre, mais c'est quoi ça ? J'avais commencé quand même à comprendre un peu qui était qui, à regarder. Mmh. Et puis, donc, pas d'internet, pas de Vogue Runway, rien du tout. Le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est d'aller au carrousel du Louvre et de rentrer dans les défilés. Et là, à quelle heure je suis accrédité pour rentrer dans les défilés ? Et là, la chance extraordinaire de tous les mecs de la sécu. Des Renois, des Rebeux.
Surprenant.
Là, moi, en chien, en train de pleurer, mais j'ai des vouchers, je peux rentrer et tout. Les mecs sont là, tu rentres pas. Vas-y, mais tu t'appelles comment ? Enfin bref, ça dure des jours et ouais, des jours. Et au bout d'un moment, les mecs me font, vas-y, rentre.
Tu nous as saoulés.
Ouais. Et tu sais quoi ? Ça fait 27 ans que je fais ce métier. Il n'y a pas un mec de la sécu que je connais pas. Et les boss de la sécu, et à chaque fois, je suis avec des talents, des gens, des actrices, des machins, des trucs, ils sont là. Eh, patron, je suis là, mais non. Tu vois, mais c'est énorme. Je les connais tous, tu vois. Ouais. Après, il y a les nouveaux et tout ça, mais les anciens. J'essaie de me prendre pour mon fils, là. Donc voilà, je rentre chez Marilyn, expérience de fou.
Tu rentres dans les défilés, du coup.
Ouais, là, je travaille chez Marilyn. C'est plus la même chose. Ouais. Et je me retrouve à... Voilà, c'est le véritable apprentissage avec des agents qui sont là, qui raccrochent au nez au Vogue italien. Kate, elle viendra pas, elle fera pas le shoot. Ça, machin, non. Peter Lindbergh, il attend. Moi, j'étais là. Et les gens, en fait, appelaient le matin. Moi, j'étais le premier. Mm. Et ils hurlaient, hystériques. Ouais, on n'a pas de réponse sur machin et tout. J'étais là, oui, je te rappelle. Je vais rappeler moi, tu vois. Et je commence à, voilà, et puis à assister les gros agents qui faisaient des trucs de dingue. Je me retrouve dans une équipe extraordinaire qui me prend un peu, elle commence à me prendre un peu sous leur aile. Il y avait des filles qui faisaient que l'édito et elles galéraient à s'occuper de filles et tout, à faire les deals d'argent. Moi, je commence à être super fort sur les deals d'argent. Donc, je demande combien, je fais quoi, machin et tout. Et puis voilà, expérience de dingue. Et au bout d'un moment, je commence à générer pas mal d'argent, mais on ne veut pas m'augmenter et on ne veut pas me donner plus d'argent. Et ça fait 2 ans et demi, je crois. Et il y avait une agence qui me rendait dingue, qui faisait des expos. À l'époque, chaque agence faisait un livre, une espèce de book pour les clients avec toutes les mannequins. Donc, tu avais une espèce de... bouclette, un truc, tu tournais les pages, t'avais que des composites de meufs et tout. Et il y avait cette agence Viva qui faisait son livre, mais shooté par un photographe, avec une DA, avec un truc. Et je me souviens, ils avaient fait un truc avec, je crois que c'était Fabien Barbazan à l'époque, et Viva avait fait une expo au Studio Zéro, avec toutes les photos qu'ils ont faites, de leur nouveau truc, et c'était tous les ans le truc, tu le recevais en janvier, les clients. Et avec une des meufs de Marilyn, on était là, putain, c'est des trucs de ouf, nous on fait un truc commercial de base, bien on essaye de rentrer, tous nos potes photographes et tout étaient invités bien sûr, et puis nous, tu vois, on venait chez Marilyn, la compète et tout, mais à l'époque les gens se voyaient peu. Et on rentre et tout, et je vois les trucs et tout, et j'étais là, oh, c'est une agence de ouf. Et je commence à gratter l'amitié un peu avec Cyril Brulé à l'époque, et j'arrive à le rencontrer, il m'engage, je pars de chez Marilyn, et là je passe 13 ans là-bas, et je deviens le directeur du booking à, je sais pas, je suis rentré à 22 ans, je pense que 2 ans après, max, je deviens le directeur du booking, expérience de fou. Là je démarre pour la première fois une fille de 3 polas, en pola, pas de digital, Donc le qui... ouais, 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 le vrai Polak t'envoie en FedEx à Steven Meisel, au Vogue américain, au Vogue italien, t'envoie des FedEx avec le book, tu vois. C'était tout prend du temps, tout est, et justement tu prends le temps pour tout faire, etc. Et je rencontre une fille qui a à peine 16 ans, Audrey Marnay. Je vois un truc, je vois un peu la Kate Moss française, tu sais, on fait tous un peu, on a besoin de repères et tout. Et j'en vois partout, la meuf, d'un coup, Maisel la shoot, couverture du Vogue Italie, exclu Miu Miu, Glenn Lutchford, machin, truc. Et là, je me rends compte que il me manque... Déjà, chez Marilyn, j'avais beaucoup appris parce que... Donc, t'as pas Internet, les photographes, les trucs, les marques. T'attends le Vogue Italie tous les mois, le Vogue Paris, le Vogue Allemand, et tu décryptes tout. The Face, je vois des images, Mondino, les trucs, les machins, enfin. Et là, t'es obligé de te nourrir, tu vois. Et à un moment donné, je crois que c'est quand je suis arrivé chez Viva, je sentais qu'il me manquait aussi du fond, en fait. Et j'ai commencé à aller à Beaubourg. D'abord, j'ai commencé, enfin déjà chez Marilyn, à adorer ce job, mais vraiment, à essayer de... Au départ, j'avais l'impression d'être un go-between, une espèce de secrétariat, de booking, de dire oui, elle est là, non, elle n'est pas là, machin... Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que plus je comprenais le travail des gens avec qui je travaillais, les designers, les photographes, les rédactrices, les agences de pub, où là encore c'était autre chose, mais plus les créatifs vraiment de la mode, et plus j'arrivais à les nourrir avec les bonnes personnes. Et à un moment donné, tu vois, on me demandait un truc, j'étais là, non, bah ça, j'ai une fille à te proposer. Et tu vois, là où les agences t'envoient 15 personnes, machin, et j'étais là, mais pourquoi une? J'étais là parce que c'est elle, la en fait.
T'étais beaucoup plus
chirurgicale. Et soit ça marche, soit ça marche pas, mais pour moi, c'est elle. Les autres ne correspondent pas, ça marchera pas, tu vois. Et je commence à aller à Beaubourg et à regarder les bouquins d'Avdon, d'Irving Penn, de Jürgen Teller, tu vois, et essayer de me nourrir. De la photo, et je commence à beaucoup aimer la photo, et tout ça d'une manière assez inconsciente, mais à me nourrir de plein d'images, de milliards d'images, et puis voilà, à comprendre le travail. T'as McQueen qui arrive chez Givenchy, t'as John Galliano qui le remplace après, qui va chez Dior, McQueen, enfin tu vois, il y a tous ces trucs là, il y a Martine Sidbon, il y a Jean Colonna, il y a Helmut Lang, tu vois, et là je vis des trucs de dingue parce que je suis dans tous ces backstage, je suis dans tous ces défilés. Et
là, tu vis la mode de l'intérieur, vraiment, ouais, le cœur de la mode.
Je deviens un peu moins plouc. je commence à... ouais, je m'affine un peu. Non. Et puis voilà, je reste 13 ans chez Viva. Je pars au bout de 13 ans. Et là, je rentre chez Next. Donc, je suis directeur du booking de Viva. Et je rentre chez Next. Et qui était une agence que j'aimais pas beaucoup, en tous les cas dans l'image, je commence à être un peu, pas je me la pète, mais j'ai une vision de l'image et tout, tu vois, j'arrive d'une espèce de boutique hyper chic, hyper pointue, qui reste pour moi une des meilleures agences à Paris, tu vois, mais il n'y a même pas photo, et j'arrive de ça, donc je suis un peu le mec qui... Tu vois, je suis un peu le mec pointu à l'époque. Ouais, à l'époque, j'étais un peu cool et tout. Et
t'es toujours cool.
Non, mais c'est autre chose, c'est assez drôle. Et je me dis, c'est une agence hyper commerciale, qui ont des restas et tout, mais qui lâche partout les tarifs, les trucs, ça allait pas et tout. J'étais pas très, très excité. Puis je les ai rencontrés à New York. Et puis là, j'ai commencé à parler. On est rentré un peu dans le fond des choses. Et ils voulaient me donner l'agence de Paris à gérer. J'étais là, non, j'ai déjà fait, je fais pas ça. Du coup, bref, je deviens président Europe de la boîte. Moi, j'avais commencé avec Cyril Boulay chez Viva à m'occuper de talents, de comédiennes, de comédiens, commencer à faire des deals avec les marques sur des gens comme Charlotte Rampling, Nathalie Baye, qui sont encore, avec Isabelle Huppert, avec Lucy Liu, etc. Et à commencer à travailler sur ça. Et donc, ma condition sine qua non, c'est pouvoir ouvrir un département talent que j'ouvre à Paris, ensuite à Londres, ensuite à Milan, ensuite à New York, ensuite à Los Angeles, ensuite à Miami. Et là, je rentre dans un truc de... Je dirige une structure à Paris, mais je chapeaute la structure à Londres, à Milan, à voyager non-stop, à être à New York tous les mois et demi, à bosser comme un chien, J'adorais ça, mais c'était d'une intensité absolue. J'étais au bureau jusqu'à 3 à 4 heures du matin, tu finis les trucs, tu repars, tu reviens. J'avais des fringues là. Déjà, chez Viva, je bossais beaucoup, mais j'adorais ça. J'adorais ça. J'ai toujours adoré ça, j'adore ça encore, je travaille beaucoup. Mais après, je suis un hyperactif aussi, je pense. J'ai, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai besoin de la mettre dans des projets après Next pour essayer de terminer le parcours professionnel.
Non, je voudrais bien qu'on reste sur Next, juste sur la partie talent, parce que moi, je me rappelle de cette époque-là où justement, il y a du Theophilus London, on parlait tout à l'heure en off d'Asap Rocky, de Travis, tout ça. Enfin, tu te positionnes sur un board de talent qui est complètement différent de ce qui se fait à Paris. Ouais. C'est quoi ? C'est une volonté ? C'est quoi ? C'est une stratégie ? Comme... Pourquoi ?
C'est pas une stratégie. Okay. Ça, c'est clair. Je suis pas dans... J'ai une stratégie quand je signe un client en termes d'image et une direction, etc., que je vais essayer de construire. Voilà. Mais non, ça, c'est des rencontres, des envies. J'adore la musique. Je pense plus calé en musique par exemple qu'en cinéma. J'adore le cinéma aussi, j'adore les acteurs, etc., les réals, enfin, mais voilà, la musique, le hip-hop, c'est des choses qui sont faites naturellement, c'est des rencontres, et ouais, je me retrouve à, je commence avec, je crois, le premier talent que j'avais signé, c'était Lou Doyon, qui a une envie folle de commencer à faire de la musique, etc. On commence à bosser sur plein de choses pour qu'elle puisse aussi gagner de la thune pour commencer à faire sa musique. Mm. Je rencontre Rita Ora, qui est toujours pas signée avec Jay-Z, qui a pas sorti un morceau. Et voilà, et je la book pour Calvin Klein avec Maisel. Elle avait pas encore fait une chanson. Et ça commence comme ça, tu vois. Et puis après, j'ai travaillé aussi des histoires un peu logiques de choses où... je rencontre Caroline de Maigret chez Viva en 96. Elle est mannequin, on commence à travailler. Elle arrête un peu le mannequinat à un moment donné. Elle commence à être productrice de musique. Elle a un enfant. Là,
Ça, c'est une grosse aventure. Pour moi, c'est, moi je te connaissais pas avant et j'ai connu Saïf, je veux dire, pas personnellement, mais quand il y a eu l'explosion de Caroline de Maigret, c'est un truc que j'ai suivi depuis le départ. Moi, la première fois que je la vois, c'est un truc Chanel. Elle était DJ ou un truc comme ça et j'ai suivi le ça c'est quelque chose que j'aimerais que tu racontes parce que c'est quand, d'un point de vue moi qui suis casting director et qui voit, qui suit les carrières des filles des fois celles qui montent, celles qui descendent là c'est vraiment une construction de A à Z quoi. Et ça j'aimerais que tu nous le racontes.
Bah en fait c'est, là aussi c'est une rencontre, elle est chez Viva, elle fait des trucs pas mal. Elle a commencé, elle a shooté un glamour franche, je crois, avec Mario Testino. Elle était chez City avant que j'arrive. Elle arrive chez Viva, elle change d'agent. Genre, elle arrive 6 mois avant moi. Et je la vois arriver, limite très low profile, les cheveux dans le visage, rien à faire. Elle est là, mais tu vois, elle est pas du tout dans le truc où les meufs arrivaient. Les petites russes et tout, sur des talons hyper sharp, machin, dans un truc, let's go. Et là, il y avait un espèce de truc de distance par rapport à ça. Et puis, je me retrouve avec une Française aussi. C'était ce truc-là, comme avec Audrey Marnay, dans une autre dimension, un autre univers. Et puis, on commence à parler, là, le fond, la forme, l'éducation... Et puis, je vois une fille sublime, mais qui est différente des critères de meuf. Tu vois, le corps, la silhouette, le truc, la blonde, etc. Et je sais pas, il y a eu un espèce de coup de cœur où pour moi, j'étais là, je commençais à bosser avec des grands photographes, des trucs. Pour moi, c'était d'une évidence que c'était quelqu'un qui pouvait inspirer des photographes, des designers. Mais c'était d'une évidence absolue, en fait. Et autour de moi, les gens n'y croyaient pas beaucoup et me disaient peut-être que je perdais du temps. Et où, pour moi, il n'y avait même pas de questions. Et en fait, au fur et à mesure, je commence à la présenter à un Peter Lindbergh, un machin. Marc Jacob arrive à Paris. Pour lui, il découvre Caroline de Maigret. Ça devient sa muse. C'est Françoise Hardy pour lui. Il fait sa première collection sur lui. Elle défile... pour Louis Vuitton avec Marc. Il y a Inès Evinoud qui commence à shooter à Paris, qui font du mixte, qui prennent Caro direct. Et les choses s'enchaînent. Elle commence à faire les Fashion Week à Milan, à Paris, à New York, en boucle, à shooter non-stop, etc. Donc ça, c'est la partie mannequin. Oh. Et puis après, elle passe un peu à autre chose. Elle a un enfant, etc. Et puis elle commence, voilà. Caro, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux qui a essayé de faire 1 milliard de trucs avant de trouver son bon truc, qui n'a rien à faire de l'échec, mais qui a juste envie de faire et construire des choses. Donc on a cette énergie aussi commune. Et elle commence à produire de la musique. Moi, je suis là, mais quelle heure t'es productrice de musique et tout. Et là, elle commence à développer des petits bands de rock à Paris, machin, des trucs, et des trucs qui commencent à, tu vois. Et puis... Moi, dans l'idée, je voyais quelqu'un qui... Enfin, c'était pas... Je voyais, c'est une jeune femme qui commence à construire fort de tout ça, mais d'autres choses. Donc, qui commence à y avoir du fond et quelque chose de différent à proposer. Et pour moi, ça devient une évidence qu'elle n'est plus la mannequin qui a 20 ans, etc. Mais ça devient cette jeune femme qui construit, qui est aussi un entrepreneur, mais qui a aussi une vision, qui a du goût, qui a du style. Et voilà, et les choses... donc après, je vais pas raconter la carrière et tout le truc, tu vois, de manière précise, mais voilà, ça évolue. Karl Lagerfeld la voit, elle fait une interview de lui. Elle fait un truc avec le Jalouse pour interviewer des gens sur la musique et tout. Puis elle bossait beaucoup avec Karl, elle lui propose de venir. Karl vient, l'interview devait rester un quart d'heure, il reste 3 heures. Ça devient un truc de fou et direct Karl demande à ce qu'elle défile pour lui. Caro avait arrêté les défilés depuis tu vois, et elle était là genre ouais, ok, c'est Karl, on y va. Là Alexander Wang veut la refaire défiler à New York. Là Inès Evinoud commence à lui faire faire une campagne de beauté et là c'est un truc de ça repart, mais ça repart avec son nom, ce qu'elle fait, qui elle est. Elle commence à rentrer dans les processus créatifs avec les artistes avec qui elle bosse. Le truc de style commence à aller beaucoup à New York, la manière dont elle s'habille, l'espèce de truc de parisienne qui n'existait presque pas dans, voilà, on arrive aux États-Unis pour Caro, pour les gens, Caro devient
la parisienne.
Ouais, le tu l'essence. Vois, l'essence totale du truc. Et puis voilà, donc qui devient un peu une personnalité. Là, les marques commencent à s'exciter de vouloir l'inviter chez machin, chez truc, on va pas citer de nom, mais d'autres marques de luxe, etc. Et Caro, elle a une vision assez claire aussi des gens, et on est dans un truc très humain, pas seulement dans un truc de business, qui fait partie évidemment du truc. Et il y a cette relation avec Karl, avec la maison Chanel. Ça devient une espèce de parti pris de ne pas aller partout, de ne pas travailler avec tout le monde, et de commencer à construire cette relation. Et voilà, the rest is history. Elle est l'égérie, l'ambassadrice de la marque depuis très longtemps. Aujourd'hui, elle réalise beaucoup, elle évolue énormément comme réalisatrice. Elle avait déjà commencé à faire des trucs pour d'autres marques il y a pas mal de temps, pour Lancôme, quand elle était Géry Lancôme, pour H&M, pour le ID. Elle faisait des trucs avec une espèce de ton comme ça, très décalé, très drôle. Et aujourd'hui, elle fait des vrais films lourds.
Lourds.
Oh, donc voilà, et l'aventure continue. Ouais, elle a écrit des bouquins.
Il y a un livre, ouais, qui a été un énorme succès.
Ouais, best-seller, on peut le dire.
Et donc t'as pas perdu ton temps au final.
Ouais, non, et puis c'est extraordinaire.
Est-ce que tu leur as dit « I told you so » ou pas ?
Non, il n'y a pas besoin. Et en plus, c'est même pas un truc de revanche. Les trucs se font... tu sais quoi, on les fait. Je travaille aujourd'hui avec des clients que j'aime profondément, qui ne sont... personne dans l'univers de l'image encore ou font des petits trucs et tout, mais qui sont pour moi aujourd'hui des stars. C'est-à-dire que je vais manquer... De toute façon, dans un quotidien, je vais m'occuper plus des gens qui galèrent que des gens qui cartonnent. Mmh. Parce que c'est là où, tu vois...
Le développement.
Ouais. Et c'est un travail sur l'humain. C'est pas seulement un travail de business de se dire, non, voilà, c'est temps, tout. Ça, ce job, c'est temps, j'accepte pas, j'enlève cette utilisation... Ça, c'est le après, la base. Et c'est là où j'ai découvert avec le temps, et je dis ça en toute... voilà, que moi aussi, j'avais du talent et que j'étais pas juste un go-between et que mon talent, c'était de voir le talent des autres. Et à ce moment-là, d'essayer parfois, je me suis rendu compte, je voyais du talent chez des gens qui n'en étaient même pas conscients. C'est encore plus galère et c'est encore plus excitant en même temps.
Ouais. Bien sûr.
Et après, l'idée, c'est de développer leur image en fonction de là où ils sont, là où ils veulent aller, pas rentrer dans un truc d'overexposition. Quand t'es un chanteur, un acteur, de suivre l'évolution de leur travail.
Et
puis de d'amener l'image qui correspond à là où ils sont, là où ils ont envie d'aller. Mmh. Et puis tu transformes pas les gens. L'idée, c'est de montrer l'authenticité des gens, le talent des gens.
Les élever.
Les accompagner. Moi, j'adore ce mot, je suis un accompagnateur. J'adore ça. Non, mais c'est vrai.
Non, bien sûr.
Et aujourd'hui, donc à 50 moins 3, je suis dans un truc où je deviens un peu le daron.
Le daron.
Et on m'appelle tonton, on m'appelle papa, et je suis là, vas-y. Et en même temps, tu vois, là, j'étais sur un clip, je produis Ali Latif, qui fait du rap, qui est mannequin, mais qui fait du rap depuis qu'il a 12 ans, etc. Et là, on sort.
J'ai eu des discussions avec lui, il est
un vrai
passionné, culture de fou.
Mais de fou. La mode, lui aussi, tu vois, c'est un espèce d'exemple de dingue. Le mec, il est né au bled, il arrive en France, il a 7 ans dans le sud de la France. Là aussi, on n'est pas riche. il décide à 18 ans de venir en France, il veut être comédien, il a plein de rêves, machin. Il arrive à gratter un truc au cours Florent. Finalement, il n'y a plus de thunes, il dégage, il n'y a plus d'appart, il vit dans la rue. Et il trouve un job dans une boulangerie. Il rentre dans une boulangerie et là, un jour, il y a un ricain qui rentre et qui lui dit « Est-ce que tu veux être mannequin ?» Lui, même pas un jour, il a pensé à ça. Mais il avait envie d'être comédien, donc tu vois. Et il prend des photos, machin. Le mec le rappelle 3 mois après et il lui dit qu'il a un job pour lui à Los Angeles. Mec, tu vois, à part l'avion pour venir du bled à Paris ou dans le sud. Bref. Et il y va, il commence à être mannequin. Moi, il n'avait pas d'agence à Paris parce que personne ne voulait à Paris. Ça aussi, c'est un truc avec les mecs rebeux assez balèzes où moi, du coup, je me retrouve sur Insta avec tous les mecs rebeux qui me contactent pour devenir mannequin. C'est un truc de dingue. Et je le prends, je fais des polas, je balance à Meisel. Le mec l'a jamais rencontré. Une semaine après, il est dans l'avion, il va faire la campagne Versace.
Incroyable.
Il shoot avec lui, ils sont 15. Hein. Le mec en transe totale, sur l'énergie, sur la discrétion en même temps, mais en même temps la présence sur le shoot. Et il rentre à Paris. Donc 2 jours après, il arrive à Paris. Je le regarde, je fais en fait, tu dois repartir à New York. Meisel te reveut pour la campagne coach. Et le mec, mais 3 jours après, il retourne à New York, il re-shoot avec lui. Tu vois, un truc de dingue. Et voilà. Et tu vois, pour l'anecdote du mec qui vient de rien et il se passe des choses, etc. Je sais pas parler sans faire de parenthèse. C'est un peu n'importe quoi. Mais là, je me retrouve sur le clip qu'on a tourné dans le sud de la France et je me retrouve avec une équipe. Et moi, j'ai l'impression d'avoir 16 ans, mec. Tu vois, je me dis, ouais, c'est cool. Et en fait, je commence à parler, puis je suis assez clair sur ce que je veux, là où je veux aller. Puis je fais de la vanne tout le temps, je suis absolument pas dans un truc hyper posé, sérieux, ça doit peut-être un peu s'entendre. Et je suis là en train de tu vois, les mecs, je suis un peu en train de les casser, rigoler et tout. Et à un moment, tu sais quoi, je vois un mec qui me regarde, il fait ouais, ok. Et il y a pas de, tu vois,
de connexion.
Non, il y a pas de répondant. Et je me dis, putain, ça va, je viens de lui parler comme à de la merde, vas-y, tu vois. Et je rigole et tout. Et en fait, là, je réalise, je regarde l'équipe et tout. Je suis là, attends, je suis le mec le plus âgé sur le tournage. Le réal, en fait, il a 22 ans. Même le chef-op, il est plus jeune que moi. et là, je me dis, ah ouais. Mais en fait, du coup, quand je dis un truc, il y a une espèce de truc de parole. Attends, c'est le boss, tu vois, un peu. Alors que je vis pas les choses comme ça. Donc, c'est assez drôle. Donc, ouais.
Donc ça, justement, bah, pour rebondir dessus... après Next, tu décides de lancer ta propre structure.
Ouais.
Qui s'appelle
Safe
Management.
Safe Management, pas Saïf, Safe. Parce qu'en plus, en les ricains, quand je dis ouais, je m'appelle Saïf, c'est Safe. Mm. Ok, d'accord. Donc j'aime bien le côté Safe, c'est le coffre-fort, et en même temps, you're safe with me, je te protège. Je sais pas, on est parti dans un délire comme ça.
Ouais, l'image est belle.
Ouais. J'aime bien.
Et ça, c'est quand, du coup, quand est-ce que tu as eu envie de te lancer à ton compte?
C'est venu tout seul. Je pense que chez Next, j'avais le sentiment d'avoir accompli une mission, d'avoir géré des choses à une dimension complètement folle, etc. Où j'avais quand même réussi à créer ma bulle parce que j'ai besoin d'un management de proximité avec les gens avec qui je travaille.
Ouais.
Et voilà, ça devenait une évidence. En fait, Et pendant, depuis des années, tout le monde me disait, ouais, mais un mec comme toi, tu dois faire ta boîte.
T'as pris le ton, ouais, t'as pris le ton.
Ouais,
ouais,
bon ouais, parce qu'on on parle comme ça, tu vois, chez nous.
Complètement.
Mais j'étais pas prêt. Ouais. Tu vois, ça semble évident pour tout le monde, mais moi j'étais là, mais jamais de la vie.
Ouais, ouais.
Tu vois, j'ai monté une boîte, je sais pas faire un business plan. Tu vois, j'étais à la banque pour ouvrir un compte. Les mecs, j'étais là, alors, on va commencer comme ça. Je n'ai pas de business plan. Le mec, qui, Joseph, qui est mon associé, qui bossait avec moi, qui était mon assistant chez Next, il me regarde et lui qui est plus business que moi, il était là, tu peux pas commencer un rendez-vous avec un banquier comme ça. Je disais, ouais, mais c'est vrai. Tu vois.
Les pieds dans le plat direct.
Mais ouais, ouais, donc voilà, l'idée c'était de continuer, c'était une évolution logique, mais à une autre dimension, et c'est pas pour moi, mais où j'avais une vraie liberté aussi chez Next et tout, mais après voilà, j'étais dans une structure qui m'appartient pas, dirigée par des ricains, donc avec une culture aussi très différente, où j'étais un communiste un peu pour eux, c'était assez drôle.
Il y a tous les Européens pour eux.
Ouais, le ticket restaurant, la mutuelle, tu vois.
C'est
healthcare, what you talking about?
You always on holidays. Bah ouais. Mais on bosse plus que vous en même temps, chérie. Donc, bon, bref. Et ouais, ouais, ça a été comme une évidence. Et aujourd'hui, c'est une espèce de... par rapport aux grosses structures, aux gros networks internationaux, c'est une petite boutique.
Ouais.
Moi, je dis toujours, c'est l'épicier du coin, tu vois.
Mais c'est un modèle qui marche vachement bien maintenant. Parce que tu as ce truc de proximité que tu peux pas forcément avoir dans des grosses structures qui aident vachement, en fait, dans le développement, dans les opportunités que tu arrives à trouver à tes artistes aussi.
Ouais. Mais pour moi, là aussi, je ne sais même pas où je vais aller, ce que je vais faire de cette boîte. Est-ce que je vais en faire un truc gigantesque? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va s'arrêter?
Ouais, parce que c'est une épicerie où il y a Anya Rubik quand même. Donc on...
Oui, entre autres.
Pas l'épicerie. Bah quoi, on est chez Fauchon, quoi. Hein.
Non, c'est un mélange.
Il y a plusieurs rayons dans l'épicerie.
Il y a plusieurs rayons, okay. Bah oui. Non, mais ouais, avec des clients de longue date aussi, des gens nouveaux. Après, j'ai la chance de travailler avec des femmes assez extraordinaires. Ça peut aller de Isabella Rossellini à Jane Birkin, mais en même temps à une jeune comédienne que je viens de signer, qui a fait déjà 7 ou 8 films que je trouve extraordinaires. C'est voilà. Et
moi, d'un point de vue extérieur, je t'ai toujours vu comme quelqu'un, comment dire, très sur l'humain. Tu vois, je t'ai vu dans... On ne se connaissait pas à cette époque-là, mais par exemple, ta relation avec Anthony Vaccarello, elle date des premiers moments, de quand il a lancé la marque. Et quand je te vois et quand je vois que ça soit tes clients ou même les gens que tu manages, je vois des gens avec qui tu as des relations depuis longtemps, de confiance ou même... Anya, tu n'as pas toujours été avec Anya, elle n'a pas toujours été avec toi.
Non, bien sûr.
Et en fait, les relations, elles sont tellement sur... D'un point de vue extérieur, en tout cas, il y a une espèce... On sent une espèce de confiance mutuelle et une envie de travailler longtemps, et toi qui mises sur des talents sur le long terme. Caroline, bah, Anthony, autres. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je t'ai toujours vu.
Oui, moi j'ai envie de ça. J'ai envie de longues histoires. Les one-shots, c'est super, tu peux faire des one-shots. Mais...
Non, mais je dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette culture. C'est la culture de tac-tac de coups. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, à la moindre opportunité, peuvent tourner leur veste, non, changer d'opinion, de trucs. C'est rare de voir des gens dans ce milieu, surtout dans notre milieu, qui ont des relations de long terme avec les gens.
Ouais. Oui, c'est vrai. mais je réfléchissais à ce que tu dis, mais un jour, je fais un super shoot avec Asa Proki, qui commence à devenir une star et tout, quand il est arrivé à Paris au début, voilà. Et là, je suis sur un shoot avec un grand photographe, une grande rédactrice de mode, et la meuf me regarde les images, waouh, il est magnifique et tout. Bon, là, je le fais mal, sa voix en plus, je la fais très bien, sa voix, cette nana.
Allez!
Non, mais là, je suis.
Elle va se reconnaître, c'est ça?
Ah, mais non, mais c'est cool. Je fais les imitations aux gens en face d'eux, j'aime beaucoup ça. Et elle me dit alors, c'est qui le prochain? Je dis, ah, pardon? Elle me fait, le prochain ASAP. Comment ça, le prochain ASAP? Chez le mec, il vient de sortir son truc. C'est la première cover que vous faites avec lui, machin. Je fais, il n'y a pas de prochain ASAP Rocky. ASAP Rocky, il est là pendant 20 ans. Et tu vois, j'étais là, mais j'en sais rien. Et puis, je m'en fous. Donc, je suis là, le sujet, c'est mon talent. On est là, on le shoot. Tu vois, il y avait un truc de... Comme ça, très Kleenex avec les mannequins, etc. Mais après, c'est aussi à nous, les agents, d'être dans un truc. Une fille, quand elle commence, et là, je parle d'un mannequin et de mannequinat pur et dur, si la fille est dingue, il se passe un truc, il y a une espèce de buzz, il y a un engouement, tous les casting directeurs, tous les photographes, tous les magazines, toutes les marques. Là, déjà, tu dois apprendre à prendre le temps et pas tout prendre ce qui arrive parce que tu dis elle va gagner de l'argent, elle va faire plein d'éditos et t'es comme un ouf. Tu te calmes, tu vois, tu prends deux marques pour faire des campagnes, tu laisses les autres pour après. Tu construis avec le bon designer, le bon photographe, tu la donnes pas à tout le monde, histoire de construire une image, tu vois, d'aller quelque part et de continuer à la rendre désirable et inspirante. Donc, c'est aussi aux agents de cadrer, de gérer et d'avoir une vision pour le mannequin à long terme. Sinon, effectivement, la fille, elle va ouvrir tous les défilés une saison. La saison d'après, elle est au milieu. Elle va faire moins d'édito. La saison d'après, tout le monde dit « Ah non, mais
on l'a trop vu.
» Génial.
Ça a été des clients.
Et voilà. Et le long terme, c'est ça aussi. Et puis, quand tu es dans l'accompagnement avec quelqu'un, et encore plus avec des mannequins, moi, c'est un truc qui m'a... c'était un poids pour moi et une vraie responsabilité. Je m'occupe de gamines à partir de 16 ans. Donc, si eux, pour moi, c'était d'une évidence, il faut que je connaisse les parents. Il faut, tu vois, il y avait un truc, ce que j'expliquais aux agents que j'avais et tout à l'époque. Elle a combien de frères et sœurs? Il fait quoi son père dans la vie? Mais elle a été à l'école, elle a été jusqu'où? Je sais pas. Je fais comment tu sais pas? C'est juste impossible. Tu travailles avec quelqu'un, tu dois connaître sa vie, son truc. Comment elle est, tu vois, c'est ce qui nous définit un petit peu quand même.
Bien sûr.
Et voilà, donc c'est du travail de construction et il faut faire très attention si tu veux construire une carrière à long terme, de bien le faire pour que ça dure.
Après, il y a ce truc aussi des agents qui aujourd'hui sont plus des agents de clients que des agents de mannequins.
Oui,
tu vois ce que
c'est
je veux
ça.
Dire.
Oui.
Ça, la vraie problématique parce que.
Qui travaille pas pour la fille mais pour l'agence ou pour le client quoi.
Ça, aujourd'hui, la vraie problématique. Quand moi, j'ai eu la chance de voir Paul, Mohamed ou des gens, voilà, qui sont des agents de filles. Oui. Et quand aujourd'hui tu compares à certains agents, tu vois que oui, bah ils misent sur le
tu
client parce que
lancer des noms. Ou...
Non, c'est pas le style de la famille, mais c'est triste, je trouve, parce que il y a cette culture aujourd'hui dans notre business où, comme tu dis, les filles sont plus interchangeables et les gens mis sur les clients parce que les clients resteront toujours les clients. Donc c'est vrai que aujourd'hui moi je parle beaucoup aux filles et je leur dis quand tu vas faire un sacrifice de ton temps, de ta jeunesse, de trucs, sois sûr parce que ce business il est très 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 dur.
C'est très dur comme métier.
Encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
C'est très très difficile. Vraiment.
Les filles qui voient les autres filles faire les jobs, on en parlait l'autre jour. Et
bien sûr.
Psychologiquement, les gens se rendent pas compte de la pression parce que c'est un milieu qui est tellement opaque de l'extérieur quand on les voit.
Ah, c'est sublime, elles sont sur un
sublime.
Catwalk et voilà. Sur la couverture d'un magazine. Mais
il y a une compétition et un niveau de pression qui est. Pour moi, je compare toujours ça à des sports de haut niveau. Les gens s'en rendent pas compte parce que.
Bien sûr, vois, c'est exactement
mais,
ça.
C'est ce genre de pression, quoi.
Mais le métier d'agent s'apprend aussi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens que j'ai rencontrés avec le temps. Alors, qu'en étaient certains moins conscients que d'autres, mais avec qui j'ai appris, vraiment. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres magnifiques et de gens qui avaient envie aussi de partager, de donner. Et c'est un métier que tu apprends. Et il y a des gens qui le font très, très bien et des gens moins bien.
Ah oui, il y a des agents incroyables. Je crache pas dans la soupe et je...
Tu vois, comme un plombier. non, mais
comme
c'est
tout,
vrai.
En fait.
Sauf
que là, t'as la responsabilité de gamine.
Oui.
Ça le.
Oui.
Ouais.
Bon, c'était mon petit moment.
On va lâcher une larme bientôt.
Non, mais c'est vrai, important. C'est vrai, ça, absolument, absolument.
Bon, on parle de ton rôle d'ambassadeur de la Tunisie, ça c'est important. le jour où on enregistre, c'est la semaine après le 50 minutes inside que t'as fait sur la Tunisie et sur Djerba. T'avais déjà fait quelque chose l'année dernière, si je me rappelle bien.
Oui.
Parle-nous de la Tunisie, de ton amour pour ce pays, pour ton pays, et comment t'es arrivé à faire ces reportages. Là, on parle de TF1.
C'est pas moi qui les ai faits. Hein.
Non, je sais, bien
non,
sûr.
Non. Mais,
t'es un facilitateur.
Ouais. Et puis voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste qui travaille pour 50 Minutes Inside, qui s'appelle Sarah Amourni, qui est d'origine tunisienne aussi. Je crois qu'elle est moitié irlandaise, tunisienne, un truc assez... On aime bien.
Rousse tunisienne, mais rousse.
Et ouais, qui a commencé à. On a retrouvé des messages. Je crois qu'elle a commencé à essayer de me capter depuis 2016. Et puis, on, voilà. Et qui a réussi à persuader TF1 de faire un sujet sur la Tunisie. Et puis, on s'est contacté, elle a commencé à faire le truc. Et voilà, moi, ça fait. Je suis pas allé en Tunisie pendant 20 ans, de 20 à 40. Et. J'ai commencé à y retourner il y a 7 ans et de manière un peu comme ça, discrète et machin, où je redécouvrais, etc. Et puis, je me suis retrouvé dans un truc, j'allais dire, je sais pas, le mot... Je me suis retrouvé attaché au sol, à la terre, enfin, à reprendre...
Les racines.
Ouais, j'allais dire racines.
Ouais, totalement. Que... qui ont toujours fait partie de moi, etc., mais plus sur la terre, en fait. Et voilà, je suis... Donc du coup, j'y suis pas allé pendant 20 ans, j'ai plein de souvenirs dans plein d'endroits de la Tunisie, mais je connais pas, tout a changé. Et là, je décide, avec mon fils, de commencer à faire des road trips de dingue, qui étaient un peu les voyages que je faisais. Mon père est du sud de la Tunisie, Ben Guerden, qui est à la frontière de la Libye. Et ma mère est du nord de la Tunisie, donc on se traversait le pays, enfin sur la côte, ce qui est long et loin, pour aller d'une famille à l'autre, en gros, chaque été. Donc je commence à refaire ce voyage initiatique avec mon fils.
Trop beau.
Et à m'arrêter dans toutes les villes, les villages que je ne connais pas, que je ne connais plus, et à redécouvrir la Tunisie. Et à partir de là, je suis parti dans un espèce de délire de road trip à essayer de... découvrir, j'allais dire presque tous les jours un nouveau village. Juste pour te donner une idée, l'été dernier, je suis resté 30 jours, j'ai fait 7000 kilomètres. Ouais, un peu même n'importe quoi. Mais je me réveille le matin, on m'a parlé, et j'ai une amie qui fait plein de choses en Tunisie et précisément dans l'artisanat. Et donc, je me réveille et mon ami me dit, ouais, il y a cette nana qui fait de la broderie, mais dans ce sens-là et machin, on y va, c'est à 3 heures de route. Puis on arrive chez elle, elle nous montre, machin, on découvre son travail, et puis on mange chez elle, et puis elle nous parle de sa cousine ou de sa nièce qui est dans tel village, et qui fait machin, un truc, on y va. Et puis d'un coup, on se retrouve à pas revenir pendant 4 jours et à dormir d'un endroit... Bref, je redécouvre la Tunisie, je redécouvre un endroit pas du tout reconnu pour... En fait, ce qu'on connaît de la Tunisie, c'est le tourisme de masse, le all included, et voilà. Et sauf que, et c'est ce qui a été développé dans le tourisme en Tunisie depuis les années 70. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est juste sublime. Et je découvre des trésors cachés, des paysages extraordinaires, une architecture.
Moi, quand je regarde tes stories quand tu es en Tunisie, je suis là, c'est pas possible.
Ouais.
C'est incroyable.
Et là, je commence à partir en mode blogueuse. C'est là que ça... et j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le Bien partager sûr. Parce que je le découvre. Et puis, j'adore les social media, j'adore Insta. Il y a plein de choses pas bien et des choses super. Et d'un coup, je commence à montrer tout ça. Je me rends compte que les gens ne connaissent pas. Moi, je le découvre en plus au fur et à mesure. Donc, il y a une espèce de truc comme ça très... Puis voilà, je retombe fou amoureux de la Tunisie. Au début, j'y vais une fois, deux fois par an. L'année d'avant le Covid, j'ai passé, je crois, 102 jours en Tunisie dans la même année. Donc, voilà.
Et tu commences à ramener des gens aussi.
Ouais. Faire découvrir aux amis.
À des grandes bandes. Il y a des grands dîners, il y a des grands lunchs.
Ouais. Bah, c'est l'idée. Et puis voilà, il y a plein de gens extraordinaires. Une nouvelle génération de talents, et il y en avait d'autres avant, mais en tout cas, moi, je découvre aujourd'hui. La scène hip-hop est ouf. Scène électro est tellement pointue. Et les jeunes, avant, regardaient, en fait, devant l'Occident, la France, l'Europe. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus tournés complètement vers l'Afrique, vers le Middle East, vers l'Asie aussi. Et c'est hyper pointu. Et il y a une jeunesse extraordinaire. Et il y a un truc en Tunisie qui, pour moi, est un peu la base du truc, c'est que, voilà, il y a eu les 10 dernières années après la révolution étaient très, très compliquées. Vraiment très compliquées. Et il y a un truc de dingue qui, pour moi, sauve la Tunisie et sauvera la Tunisie, c'est que les gens aiment tellement leur pays. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Et puis moi, voilà, cette double culture, pour moi, c'est ma force. Et tu vois, tu marches en Tunisie. D'abord, j'ai un problème d'addiction avec la nourriture, et la nourriture tunisienne en particulier.
On en a un deuxième, là.
Ah ouais, non, mais c'est voilà.
C'est problématique.
Je suis drogué. Ouais, c'est clair. Et déjà, tu marches dans la rue, voilà, tu dis bonjour à tout le monde. Tu rentres dans un café, tu es obligé de dire bonjour aux gens. Enfin, on est dans un autre truc.
Culturellement, c'est différent.
Ouais, c'est différent. Et j'adore ce décalage, et j'adore les deux. Quand je rentre à Paris, je suis l'homme le plus heureux du monde, et je suis un Parisien, j'adore ça, et je suis très très fier d'être français, j'ai cette... voilà. Et quand je suis là-bas, c'est à 2 heures de Paris, je me retrouve dans un autre monde. C'est assez extraordinaire, ouais, et c'est sublime la Tunisie. Allez-y, j'ai commencé à faire ce hashtag comme tout Tunisia. Quand j'avais commencé à le faire, il y avait genre 80 hashtags, tu sais, tu le vois sur Insta, les nombres et tout. Là, je sais pas, ça a éclaté. Et cette année, tu vois, avec le Covid et tout, et les galères qu'il y avait et tout, je me suis dit, abuse pas, mais pas comme Toutou Ninja sur tes trucs et tout. Et je voulais mettre comme Toutou Ninja next year. Ouais.
On va y aller.
Ah ouais.
C'est sûr. Bon bah écoute, génial, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
C'est énorme, là, il faut éditer les gars.
Non, c'est très très long.
Non, vous êtes fous, ça fait... Waouh.
Ça fait 1h06.
C'est très long, c'est pas bien comme format 1h06 les
mais
gars.
Mais tu rigoles, on a 2 heures, les gens écoutent. Mais
non,
on a les stats.
Tu vois, 25 minutes.
Il n'y a rien à ajouter, tu nous as donné...
On va faire l'édit ensemble.
Non, par contre, on finit toujours avec tes petites questions gimmicks à la fin, tu réponds tac au tac.
Ou pas, si t'as pas d'inspiration.
Vas-y. Alors, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou alors le conseil que tu donnes?
Waouh. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est... Mon truc, c'est de vivre le présent, le moment présent, vraiment.
Okay.
Tu vois, là, je kiffe d'être là et je suis très heureux. J'ai plein de trucs à faire tout à l'heure. Je n'ai pas du tout envie d'y penser.
Tu
ne penses
pas, tu n'as pas la tête à ça.
Non.
C'est beau,
faut pas,
ça. C'est
faut
génial.
Pas, faut pas, sinon, c'est une... Tu vois.
Incroyable, c'est un très beau conseil, ça.
Grave. Est-ce que tu as un talent caché?
Est-ce que tu as réussi à master un plat tunisien là, que tu fais à la perfection?
Ah ouais. Je fais bien les briques. Le couscous, bon, à côté de celui de ma mère, c'est une daube. Je maîtrise un peu. Un talent caché. Je cache pas beaucoup de choses, moi. C'est un peu un livre ouvert. Mais ouais, je chante en rebeu tout seul dans la salle de bain. Mais en fait, même ça, je le fais pas en cachette, tu vois, je chante tout le temps. Je danse aussi en rebeu, c'est pathétique, mais j'adore ça. Voilà.
J'adore. Est-ce que t'as un guilty pleasure?
Ouais, macaroni de salsa.
Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas?
Bah, allez chercher. Ah. c'est les pâtes à la sauce tomate tunisienne.
Yes.
C'est un goût très particulier.
Super.
C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus?
Mort de rien.
Ok.
Ou l'aubergine. Non, je plaisante.
Non, je sais pas.
Non, c'est le smile, celui penché comme
de
ça
côté.
Sur le côté.
Ouais. Okay.
Qui rit. Le dernier compte Instagram que tu as suivi ou un compte qu'on doit absolument aller suivre?
Ah, oh, les gars, j'en ai plein. Hein. Je vous ai dit, je suis un blogueur. Le dernier que j'ai suivi, j'en ai aucune idée. Je vais aller regarder pour dire un...
Bah j'espère que c'est Cast. Si t'es pas abonné, attention.
Oh là,
alors, l'éditing, il va partir dans tous les sens.
Alors, tu sais quoi?
D'ailleurs, je passe. Hein. Il faut s'abonner, il faut partager si vous aimez le podcast. Allez-y.
Bah ouais, carrément. Cast podcast. Bah regarde le dernier sur lequel je viens de m'abonner. Regarde ce que c'est.
Bah voilà.
Voilà, Cast podcast.
Allez, instant autopromo.
Faites comme safe. Et enfin, la tendance mode que t'as jamais compris.
Il y en a plein. Hein.
On a pas vraiment parlé de ton rapport aux vêtements. On a parlé de mode en règle générale, mais pas trop
passion
de vêtements.
Passion is my passion.
Yes.
que j'ai pas aimé. Waouh, c'est compliqué.
Pas aimé ou pas compris, ou tu dis
pas
mais
compris. Pas compris.
Ou t'as été réfractaire au début et puis après t'as adopté. On a tous une petite.
Non, je me souviens.
Ça.
Ouais. Ah ouais, mais j'ai mal prononcé son nom. Ça va être une catastrophe. Parce que je fais un jeu de mots sur son nom. Non. Je sais pas. Je retiens plus ce que j'aime que ce que j'aime pas.
Ok.
Ouais.
Écoute, Saïf, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
C'était passionnant.
Plaisir.
C'était passionnant, en effet.
Merci.
Bon, très agréable en tous les cas. Merci.
Merci.